Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le SmackDown du 28 février 2020. Nous sommes au lendemain de ce bain de vomi qui a été le Super Showdown, un bain de vomi mais spectaculaire avec feu d'artifice hein, qui a d'ailleurs été l'unique top accordé par Chris et Ringside. Et d'ailleurs, avec moi pour analyser le show bleu, j'ai l'ami Chris. Salut Chris.
Salut le patron, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu qui va relever le niveau, j'espère.
Ah bah, de toute façon, on ne peut que relever le niveau vu sans vouloir spoiler la note, j'ai fini d'écouter votre analyse de Super Showdown et pour la note, c'est une belle note quoi.
Voilà, on ne peut pas faire pire. La bulle.
La bulle. Eh bien, c'est Goldberg qui ouvre l'épisode de SmackDown, votre nouveau champion universel. Alors, évidemment, on était à Boston. Ça jouera un rôle important en fin du show. Très, très important. Évidemment, les fans ne sont pas contents. Hein. Goldberg arrive sous les huées. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait remarquer, mais on n'a pas eu vraiment la vraie entrée de Goldberg, quoi. On n'a pas eu Goldberg. On vient toquer à sa porte. On a un peu expédié son arrivée parce que il faut pas se leurrer. Hein. On va essayer de Goldberg, il va presque jouer un peu le heel dans cette nouvelle histoire. Hein. En tout cas, il a un peu le mauvais rôle, on va dire, puisque les fans ne sont pas contents de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Et Goldberg expédie rapidement une promotion. Hein, il n'a pas le temps de s'attarder, il n'a pas eu de message, un peu comme il a vu il y a 2-3 ans, en disant qu'il était content. Il ne s'est pas épanché sur sa victoire. Il dit ce qui est important, ce n'est pas qui est le précédent, qui est le dernier, mais qui sera le suivant. Who's next? La musique du gros chien retentit. On ne prend pas de gants. On n'a pas besoin de construire. Mais l'Elimination Chamber arrive. WrestleMania arrive. Roman Reigns arrive. Et il regarde Goldberg et il dit « Je suis le suivant. I'm next. » Et il part. Goldberg rigole. Et voilà, on vient de booker le main event de WrestleMania.
Voilà. En 2-2, c'était plié.
Ok, c'est plus une route de WrestleMania, là.
C'est la voie express.
C'est la voie express, mais genre, on roule à combien, là, 3000 km/h, là, de 0 à 100 en une seconde.
Ah purée, une promo, un segment sponsorisé par la NASA.
Toujours incroyable. Plus loin, plus fort, plus vite.
ah ouais. Non, là, je crois qu'on pouvait pas booker ça plus vite que ce qu'ils ont fait. Là vraiment, c'était impressionnant, quoi. Et même le Roman, finalement, c'est pas saoulé, hein, de toute façon. I am next, voilà. Point barre, rentrez chez vous. Et voilà, que dire d'autre après ce truc catastrophique de Super Showdown, voilà. Hein. Alors effectivement, t'as bien posé les choses. Je te rappelle, mon coco, que dans notre dernière analyse de SD, tu vois, je l'avais annoncé, la victoire de Goldberg. Hein. Toi, tu étais convaincu du contraire, mais malheureusement... c'était pas une prédiction, c'était un spoiler.
Ouais, tu pourrais te les garder dans le cul, tes spoilers la prochaine fois. Tu nous as jinxé, comme on dit, là. Tu nous as porté la poisse.
Ah, purée, ouais. Oh là là. Je m'en serais bien passé. Hein.
J'ose même pas me réécouter. Là, on était là à dire « Ah ouais, non, mais t'imagines ce moment qui va être incroyable. Goldberg, pendant le match, il va se rendre compte qu'il peut rien faire. » Et c'est là où il va avoir peur parce qu'on nous racontait, c'était le fait que Goldberg, il y allait sans avoir peur. Il avait pas peur de The Fiend. Et c'est ça qui allait l'aider à gagner. Et tu dis, du coup, ça s'écrivait tout seul. Tu faisais Goldberg qui avait un doute à un moment donné. Tu penses rien du tout, le mec, il est arrivé. Je ne sais pas si tu as vu sa petite interview post-match où il expliquait en détachant ses gants qu'en fait, son plan était assez simple. Il fallait foncer dans le tas et puis c'était bon, quoi, puis ça a passé.
J'avais réécouté le passage de notre analyse de SD de la semaine dernière et j'avais trouvé super bon tout le passage sur notre booking du match, comment nous, on l'aurait fait à catch-up. Et quand tu vois ce qui s'est passé en réel, tu te dis « Ah ouais, on était loin. » c'est terrible, quoi. Franchement, ça a été un moment… on a un champion universel de 53 ans, parce que je pense que la WWE… Je ne sais pas ce que tu en penses, ça m'intéresse d'ailleurs ton avis là-dessus, mais je pense que pour la WWE, un main event The Fiend versus Roman Reigns, c'était pas vendeur, quoi.
Mais alors ça, c'est un truc que je piche pas. Toi, j'écoutais justement votre analyse sur Super Showdown et je comprenais pas en fait quelque chose qui m'échappe dans notamment ce que disait Ringside, à savoir, ok, pour vendre, t'as deux choses. Alors, pour en grosso modo, pour asseoir les culs dans les sièges dans WrestleMania, alors, je sais pas, j'ai l'impression que peu importe la carte déjà pour WrestleMania sera toujours blindée. Enfin, je pense pas qu'il y a un gros besoin de. Enfin, il y a eu des WrestleMania, enfin les WrestleMania se remplissent, mais ce que je veux dire, c'est ok, tu dis ok, j'ai besoin de grosses stars. Et ma solution, c'est pas d'en construire des nouvelles, c'est de faire appel aux anciennes. Ok, pourquoi pas? Enfin, je dis, tu peux. Dans ma tête, je me dis, tu peux faire les deux hein, en même temps. Mais bon, tu fais revenir Goldberg. Pourquoi t'as besoin de mettre la ceinture autour des hanches de Goldberg? Puisque mais... visiblement, la présence même de Goldberg suffit en soi. Enfin, j'ai pas forcément l'impression que t'aies besoin de mettre. D'avoir Goldberg champion pour aller à WrestleMania pour rajouter du glamour et du sex appeal et de l'attractivité autour de Goldberg. Tu me bookes un Goldberg versus Undertaker, par exemple, match qui a déjà eu lieu, mais tu me bookes un Goldberg versus Undertaker pour WrestleMania. Est-ce que ça n'a pas finalement un peu cet effet que tu attends de faire appel à des anciennes gloires pour apporter du glamour, peut-être plus de projecteurs sur WrestleMania? Je comprends pas quelque chose qui m'échappe, toi, sur le fait que il faille absolument mettre la ceinture autour de Goldberg pour WrestleMania.
Ouais, je comprends. Après, je sais pas si finalement il y a un effet Goldberg tant que ça, parce que, écoute, tous les reports ont l'air de dire qu'ils ont beaucoup de mal à vendre les tickets hein, pour WrestleMania. Hein. Ça a l'air d'être une des années les plus difficiles. Hein. Jamais ils ont eu autant de mal à vendre du ticket. Hein.
Ouais.
Ça a l'air d'être très compliqué.
Après, finalement, tu dis, mais est-ce que Goldberg, on veut nous le présenter comme une solution, mais finalement, c'est plutôt une illustration du problème. C'est-à-dire que on se retrouve à l'échéance de WrestleMania à devoir faire appel à des gloires du passé, alors que tu as 364 jours avant pour construire des superstars et augmenter la hype autour de ton événement, avec des shows, des heures télé, enfin, tu passes à la télé quasiment tous les jours. Si tu n'y arrives pas, si au dernier moment tu es obligé de faire appel à des anciennes gloires du passé, c'est que c'est une illustration de ton problème, c'est une conséquence. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une solution. On se retrouve à, une fois de plus, à chercher des solutions à très court terme. Et l'année prochaine, on va se retrouver avec le même problème. Goldberg, il va pas porter le show toute l'année. Donc, on va se retrouver avec. En fait, je. C'est vraiment c'est une conséquence de ta mauvaise gestion de ton produit, finalement. Si tu n'arrives pas à créer une hype suffisante pour que les gens viennent viennent à WrestleMania.
Ouais, et puis ça pose question aussi quand même sur la construction du personnage du Finn, quoi. C'est-à-dire que c'est ça faisait tellement longtemps que la WWE ne nous avait pas proposé un personnage construit sur la durée, avec tout un univers. Construit aussi dans le in-ring pour nous montrer un monstre destructeur et qui finalement se fait démolir en 2-2 par un type de 53 piges dont le cardio laisse à désirer mais qui effectivement amène un star power apparemment certain pour VKM. C'est quand même vachement compliqué. Puis si tu veux, moi il y a un truc, je sais pas si ça t'a interpellé la fin du match avec Goldberg et le Finn, mais quand même, il se prend 4 spears et un jackhammer, et au final, pendant que Goldberg célèbre, The Finn se relève comme si de rien n'était, et se place derrière Goldberg, et puis finalement disparaît dans les lumières. J'ai trouvé ça incompréhensible. Enfin, voilà, quoi. Peuple de catch-up dans les commentaires, expliquez-moi, éclairez-moi, parce que là, j'avoue que, moi, vraiment, il y a eu une totale incompréhension de ma part, j'en ai fait part pendant la review, hein, mais vraiment une totale incompréhension de ma part, là.
En fait, concrètement, il s'est retrouvé. The Finn s'est retrouvé face à un adversaire qui n'avait pas ce passif avec Bray Wyatt. C'était vraiment un match-up totalement différent par rapport à l'histoire qu'on nous raconte du personnage. Donc, quelque part, je me dis l'angle, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont trop s'attarder dessus, du coup, et c'est bien dommage. Je pense que, enfin, il y aura plus de Bray Wyatt ne va pas revenir. Ouais, ben, il pourrait, en fait, il pourrait. On est un peu maso à chaque fois essayer de se projeter de façon positive sur le futur en disant voilà comment il pourrait rattraper le coup. Mais grosso modo, effectivement, il s'est retrouvé face à un adversaire qui n'avait aucun passif avec The Fiend, qui n'avait presque aucun besoin d'affronter finalement. The Fiend n'avait aucun besoin d'affronter Goldberg. Et finalement, autant l'affiche était alléchante et j'avais trouvé ça culotté dans on va dire, dans l'idée que justement on utilise Goldberg pour pusher The Fiend, toi, on dit ok, on va l'utiliser pour pusher The Fiend, du coup, même si ça sort de nulle part, c'est culotté. Enfin, toi, il y a un côté vraiment genre, on veut vraiment pousser, on arrive justement, on s'approche de WrestleMania et on veut pousser ce personnage-là. Et finalement, c'était à côté de la plaque, ce match-up, par rapport au personnage. Bray Wyatt ou The Fiend, non. Aucun intérêt, aucune envie particulière d'aller chercher Goldberg, puisque toute la substance de Bray Wyatt et de The Fiend, c'est de se venger de ceux qui lui ont fait du tort par le passé. Et là, mais le problème, si tu décortiques tout, le problème vient tout simplement du fait d'avoir mis la ceinture à The Fiend. Tout le bordel est arrivé de là, on en avait parlé déjà à l'époque, ça arrive trop tôt cette histoire de ceinture, ils vont se retrouver un petit peu bloqués, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont mis dans les pattes tous les mecs avec qui il a eu des interactions, et en développant ce personnage, les motivations de ce personnage, mais finalement WrestleMania approche, on se retrouve avec un personnage, The Fiend, qui a une ceinture, et on lui balance Goldberg qui, effectivement, pour la peine, n'avait aucune raison d'être en confrontation avec The Fiend. Alors, du coup, moi, je me dis, quelque part, c'est l'histoire qu'on voudrait ou qu'on aurait pu nous raconter, dans le sens où The Fiend n'ayant pas, toi, l'espèce de mainmise sur Goldberg, d'un point de vue très psychologique, arrive... Enfin, n'arrive pas à battre Goldberg, parce que Goldberg, il est en mode, mais en fait, c'est ce qu'il faisait, toi. Genre, j'ai pas peur de The Fiend, le mec, il a pas mon numéro, toi.
Oui, mais oui, bon. Ce qui était énormément critiqué, d'ailleurs, dans tous les médias, le fait que Goldberg ne vende pas la peur. Alors que pour le coup, moi, ça me plaisait plutôt bien, ça.
Il aurait fallu que ça arrive pendant, d'un point de vue storyline, justement, il aurait fallu que ça arrive pendant le match, qu'ils se rendent compte.
Oui.
Ah ouais, moi aussi, enfin, entre guillemets, moi aussi, j'ai les jetons de The Fiend, toi.
Mais oui. Mais oui, mais de toute façon, tu sais bien que je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, ouais. Non, moi, pour moi, vraiment, là, on est dans un truc. Pour moi, un énorme plantage de la WWE là-dessus. Quoi. Et puis, voilà. Et puis, bon, c'est toujours en merde. Après, ça, c'est un autre problème. Mais moi, je suis quand même très ennuyé que les deux titres majeurs de la WWE se règlent en 2 minutes à chaque fois. Tu vois, dans un show à 50 patates, voilà, ça fait mal, quand même. Hein.
Bah, alors, il y a deux choses. Je sais pas si moi j'en discutais hier et je m'en suis rendu compte. Enfin, genre WrestleMania, les deux, on va appeler ça les deux main events, les deux matchs de championnat pour le titre, c'est un effet de miroir. C'est exactement les mêmes matchs qu'on va avoir. Brock Lesnar versus Drew McIntyre, Goldberg versus Roman Reigns, c'est exactement le même match. Deux Golgothes, deux gloires du passé qui font des matchs de moins de 5 minutes, qui vont affronter les deux top babyface de la compagnie, qui ont exactement le même profil. C'est des variations, mais c'est des mêmes prototypes, toi, à peu de choses près. Donc il n'y a même pas de... Tu sais, habituellement, tu as un peu une espèce d'équilibre entre un gros match, toi, avec Goldberg ou avec Brock Lesnar. Tu sais que ça va pas durer longtemps, mais ça va être intense. Et ça va vraiment être... les mecs vont se rentrer dedans. Et à l'inverse, tu vas peut-être avoir un match plus technique ou... Enfin, voilà, des profils assez différents.
Là, ça va vraiment... être le cas l'année dernière, puisque quand on y repense, l'année dernière à WrestleMania, le match pour le titre ASD, c'était Daniel Bryan versus Kofi Kingston.
Ah ouais,
où on avait eu un vrai match de catch.
Ouais. Et là, en fait, exactement, c'est comme si t'avais Vince McMahon qui, enfin là, c'est le Là, Vince McMahon, à mon avis, il a le pantalon mouillé, là. Il a le pantalon trempé avec ces deux matchs-là, quand même.
Ah bah là, lui, il est en plein kiff, hein. Ouais, là, je pense que là, lui, c'est une espèce de truc ultime pour lui, quoi.
C'est ça aussi, moi, qui me dérange, c'est finalement d'avoir ce match Roman Reigns versus Goldberg. Ça m'embête grave qu'il soit en même temps que le Drew McIntyre versus Brock Lesnar. Parce que c'est vraiment trop de profils différents. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un qui a été booké de façon très organique. Le Brock Lesnar versus Drew McIntyre, il était de façon très organique. La foule s'est ralliée derrière Drew McIntyre. Il y a eu des moments incroyables. On a utilisé le Money in the Bank pour nous booker ce match. Et la hype, elle est assez haute sur ce match quand même.
Le Royal Rumble.
Le Royal Rumble, excuse-moi. Et à l'inverse, total opposé, le même profil de match, mais booké presque de la pire façon. Enfin, vraiment, t'as des espèces de... pas le bon et le mauvais booking, mais genre les deux extrêmes, quoi. Où t'as le même profil, Goldberg versus Roman Reigns, mais qui a été booké en une minute.
Et ouais.
Dans un SD, en n'utilisant pas l'Elimination Chamber, toi.
Alors et ouais.
Un pay-per-view qui arrive dans 10 jours, on dit on s'en fout d'ailleurs. Respect à Sheamus parce qu'il va arriver à l'Elimination Chamber, il va être tout seul. Hein. On se souvient quand même que Sheamus, oui. La semaine dernière, a validé son ticket pour l'Elimination Chamber. Je sais pas comment il va faire. Mais tu vois, quand même, là, c'est une belle illustration. Enfin, à moins qu'il nous fasse une surprise en mettant un quatrième Elimination Chamber, ça m'étonnerait. C'est quand même une belle illustration du mode panique et de la vision à très court terme de la WWE. Parce qu'on a un mec, il y a une semaine, qui lance, on va dire, les candidatures pour le champ d'élimination. Et la semaine d'après, t'as un autre mec qui arrive en disant pas besoin, qui a déjà son ticket, quoi.
Voilà.
Donc ça. Voilà, donc on a deux extrêmes, et c'est intéressant, mais c'est d'une tristesse absolue. De toute façon, on verra après qu'on fera le récap, mais j'ai trouvé ce SmackDown très triste, en fait, pour en faisant un état des lieux un petit peu, toi, de où on en est aujourd'hui avec la WWE. C'était assez, assez triste.
Ouais.
On va continuer le déroulé, si tu veux bien, sans trop s'attarder, puisqu'on a quand même on va revenir de toute façon sur ces histoires de gros matchs pour WrestleMania. Donc on était à Boston, on a Bayley versus Naomi, un rematch classique, hein, avec cette fois-ci le retour de Sasha Banks, pour une fois qu'on parle d'elle et qu'elle est là, la future... Grammy Award winner qui arrive pour être donc du côté de Bayley. Une intervention, intervention de Sasha Banks qui provoque la disqualification,
ouais.
En même pas une minute, et ça se transforme en match par équipe puisque Lacey Evans débarque dans le rôle de l'héroïne qui vient sauver les gentils. On a eu un match de 10 minutes entre les deux et un drôle de booking puisque pour son retour Sasha Banks n'obtiendra pas la victoire puisque c'est bien Naomi et Lacey Evans qui repartent victorieuses de cette rencontre entre Bayley et Sasha Banks. Je serais tenté de te dire, est-ce que on peut pas simplement espérer que ça y est, on nous book un Bayley versus Sasha Banks pour très bientôt là, puisque clairement elles étaient pas très contentes du résultat.
Ouais. Ah bah moi je sens ça, hein. Je sens le split entre Sasha Banks et Bayley avant WrestleMania parce que je pense que c'est s'ils veulent sauver l'affiche du show bleu de la division féminine pour WrestleMania, je pense que c'est ce qu'il faut faire là.
Ouais.
Il faut une trahison ferme et définitive de la part de Sasha envers Bayley. Et qu'elles se mettent dessus, quoi. Parce que là, si nous vendent un Bayley versus Lacey Evans à WrestleMania, moi je serais quand même largement dubitatif sur cette affiche-là, quoi.
En sachant qu'il y a la chambre d'élimination hein, pour ces filles-là, a priori.
Oui, alors voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il y a, pour le coup, elles y ont vraiment droit. Il y a vraiment la chambre d'élimination où on va avoir droit pour les filles.
Mmh.
Donc ça va certainement rebattre les cartes. Et effectivement, si ça, alors du coup, ça me met un doute. Sacha Banks, elle est bien dans la chambre.
En fait, je crois pas qu'ils aient annoncé, officialisé les participantes. Hein. Je crois qu'il y a juste Lacey Evans qui en avait vaguement parlé la semaine dernière.
Ouais.
Un peu comme Sheamus, donc attention.
Ouais, ça peut changer du coup d'ici vendredi prochain. Ouais.
Je suis pas sûr. Alors, on parle que c'était officialisé hein, cette chambre-là. Hein.
Ouais.
Mais en tout cas, ils ont pas annoncé encore les participantes. Donc, ouais. Mais toi, là, pour la peine, du coup, il n'y avait pas forcément besoin de chambre d'élimination si tu boucles Bayley versus Banks. Mais bon.
Ouais, ouais. Et puis, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à Bayley.
Ouais.
Parce que, au vu de son règne totalement insipide, la meilleure chose qui puisse se passer, ça soit que vraiment Sacha Banks se retourne contre elle. Et là, pour le coup, en plus, ça pourrait nous proposer un match d'une qualité un peu supérieure à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Quand on voit le catastrophique Naomi versus Bayley à Super Showdown, là, je me dis que Sacha Banks ne peut que relever le niveau.
Ouais, non, t'as raison. C'est la seule façon de sauver cette division du show bleu. C'est de rapidement passer aux choses sérieuses en mettant les deux filles enfin l'une contre l'autre. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Kofi Kingston a affronté Robert Hood.
Eh oui.
Avec Big E et Dolph Ziggler qui étaient ringside. Et une victoire de Robert Hood à la fin grâce à l'aide de Dolph Ziggler. Puisque... Dolph Ziggler a aidé Bobby Roode à casser un tombé en mettant son pied sur la corde. C'était un bon petit match d'un peu plus de 10 minutes qui nous book un petit peu. Qui nous annonce derrière il y aura une chambre d'élimination. Ça, c'est peut-être l'info, un peu l'info de la division par équipe. Tout ça pour nous dire qu'il y aura une chambre d'élimination pour les équipes du côté du show bleu. Avec donc Miz et Morrison qui défendront leur titre dans la chambre d'élimination.
Ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Tag Team Division. On n'arrête pas de s'en plaindre de cette Tag Team Division du show bleu. Et ouais. Pour le coup, bah là, ils font un effort véritable. Un effort véritable sur le catch par équipe à SmackDown. Donc ça, je suis plutôt positif là-dessus, tu vois. C'était peut-être même l'un des seuls trucs à Super Showdown qui m'a « plu », entre guillemets. Parce que j'ai pas trouvé le match extraordinaire là entre les New Day et Miz et Morrison, mais j'étais plutôt content de la victoire des deux de Miz et Morrison. Et je trouve qu'il y a un début de relance de la Tag Team Division dans le show.
Ouais, c'est une bonne opération. Le match était plutôt bon avec des heels qui étaient vraiment bien heels et puis des gentils qui perdent. Voilà, c'était. C'est plutôt bien foutu. Ce match s'est passé sous les yeux de la belle Mandy et de Sonya Deville. On a d'ailleurs Tucker hein, qui essaye de consoler Otis après un petit peu le vent qui s'est bouffé, le lapin là, qui s'est pris lors de leur rencard pour la Saint-Valentin. Et Tucker qui place un petit « Vas-y, tu devrais oublier cette fille, reste avec moi » qui peut-être trahit, hein. Est-ce que Tucker n'aurait pas un rôle à jouer dans tout ça? L'affaire est à suivre.
ça serait dur pour Tucker, hein, parce que Tucker, il a véritablement besoin d'Otis, hein, parce que c'est Otis qui est over dans le duo.
Je ne
suis pas trop sûr quand même que ça soit une grande idée pour Tucker de le faire splitter. Pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous est présenté, hein, mais dans cette éventualité-là, pour Tucker, ça serait une très mauvaise nouvelle. Hein.
Je pense qu'ils peuvent garder cette idée-là, mais il ne faut pas que l'équipe elle split pour autant, toi. Genre, ils se prennent la tête, mais ils se réconcilient quand même autour d'un bon barbecue.
Voilà, pourquoi pas, ouais.
Voilà, ça fait là un peu de storyline, un peu d'enrobage. On a une signature de contrat pour le Strowman versus Nakamura, avec cette belle ceinture noire qu'a Strowman autour des hanches. Renee Young est là. Elle est là pour la signature du contrat. Sami Zayn, Cesaro et Nakamura débarquent. Sami Zayn interrompt la signature de contrat. Ils sont là pour le business. Ils veulent checker un peu le contrat, voir lire les petites lignes. On nous rebalance des images horribles de Nakamura qui s'est bouffé le piano et qui s'est tapé comme 9 points de suture, 9 à grave quand même.
Ouais,
assez violent. T'as vu ça, l'entaille qui s'est tapé?
Ah ouais, non, c'était du sérieux. Hein. C'était du sérieux. Ne faites pas ça chez vous.
Ah non. Ne mettez pas des coups de tête au piano.
Mais ouais, le piano est toujours plus fort.
Stroman leur dit, lui demande de la fermer. Il dit moi, je sais que de toute façon, je devrais m'occuper de vous trois. Et il signe. Et là, Samuelson, il voit ça. Il dit mais attends. Tu veux vraiment nous affronter tous les trois, hein, c'est bien ce qu'il a dit, vous avez entendu hein, tout ça, hein, ce qu'il a dit. Et du coup, Sami Zayn transforme le match en 1 contre 3, chacun signe, Cesaro signe, Nakamura signe et Sami Zayn signe. Sami est content de son coup. Strowman donc, va devoir affronter les trois dans un handicap match. Ouais. Elimination Chamber. Après, tout le monde se met sur la tronche. On voit un hell of a kick, ça fait longtemps, ça fait plaisir de rappeler que Sami Zayn est aussi un catcher. Et Kinshasa Nakamura et Strowman qui passent à travers la table.
Eh oui.
Et ouais, du coup on aura un 1 contre 3 qui peut être divertissant parce qu'on a quand même des sacrés bonhommes là dans cette histoire. Donc, ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ?
Bah moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que si le trio gagne, qu'est-ce qui se passe ? Qui est le champion intercontinental ? Ils vont mettre en place une Freebird Rules pour le titre intercontinental ?
Est-ce qu'on a vraiment besoin de se poser cette question ?
Ouais, je sais pas, quoi. Les trois seront champions, peut-être. Je comprends pas trop ce qu'ils veulent faire. Après, je sais pas, en termes historiques... je crois que c'est la toute première fois hein, que ça arrive ça, hein, que le titre intercontinental soit défendu dans le cadre d'un handicap match à 3 contre 1. Je pense que là il faut aller fouiller dans les archives, mais très franchement je pense que c'est totalement inédit ça.
Et, autant on a déjà vu des catcheurs ou des catcheuses se partager une ceinture, mais effectivement cette configuration là ça me dit rien, en tout cas pas récemment, mais c'est toi hein, la mémoire de la WWE.
Ouais, écoute, j'ai eu beaucoup cogité sur cette affaire, je ne trouve aucune trace d'un précédent comme ça, quoi. Là je crois vraiment que là on est face à quelque chose d'inédit et bon, ça devrait nous donner un match pas mal. Déjà les interactions entre les quatre sont plutôt bonnes, le beatdown à la fin était plutôt sympa. Effectivement, comme tu l'as dit, moi aussi ça m'a fait plaisir de voir Zayn avoir un peu à nouveau quelques réflexes de catcher entre les cordes, donc ça c'était plutôt sympa. Ça devrait nous donner un truc pas trop mal.
On enchaîne avec Daniel Bryan qui avait un match contre Curtis Axel. Qu'est-ce qu'il fout là, lui ?
Ah ouais. Out of nowhere.
Il me sortait du formal, ce mec.
Curtis Axel qui ressort du truc. Là, on se demande d'où il débarque. Incroyable.
C'est comme les... attends, qui j'avais vu récemment ? Ah oui, c'est les Primo, là, les Collins.
Les Collins, ouais.
Qui sont toujours sous contrat, mais qui n'ont pas fait de match depuis août 2018, je crois. Ils ne sont pas apparus à la télé depuis août 2018.
Incroyable, hein, quand même.
Et les mecs sont toujours sous contrat.
Alors là, en emploi fictif, là, tu... Franchement, là, tu peux pas faire mieux, quoi. Hein. La mairie de Paris peut prendre... top of the top de l'emploi fictif, quoi. Hashtag François Fillon dans la place, quoi.
Gulak, Drew Gulak au commentaire, évidemment, c'est un peu l'histoire qu'on nous raconte. Le Yes Lock pour terminer le match, puis emballé, c'était pesé, quoi. Mais puis,
5 minutes. 5 minutes, douche comprise.
Bon, c'est sympa. On a. Gulak, il est cool. Et puis, on parle de contrat. Le contrat d'Alan Bryan, il arrive bientôt à son terme. Et je me demande si tout ça ne sent pas un petit peu le petit programme de sortie pour Daniel Bryan. Hein.
Ah, tu penses que c'est un programme de sortie, ça ? Carrément ?
Un programme allégé en mode on ne sait pas trop si le mec va signer. Du coup, on peut pas trop investir. On ne va pas investir sur lui de toute façon pour WrestleMania. Et du coup, on lui donne un petit programme de mid-card, presque de low-card. Là, hein. Enfin, c'est même un programme de low-carder hein, qu'il a. Hein. Où on, pour faire briller un mec un peu random hein, d'ailleurs, tu me demandes pourquoi Drew Gulak, mais c'est vrai qu'il a bon, enfin nous on l'apprécie, mais il rentre pas trop dans les critères habituels de la WWE, mais Ouais, moi je voilà, enfin on m'a dit que je ne sais pas quand est-ce exactement se termine le contrat de Daniel Bryan, mais visiblement c'est pour bientôt. Et Daniel Bryan, il va bientôt être papa pour la seconde fois. Il a déjà exprimé son envie de ralentir la cadence. Lui, ça l'intéresse plus trop, visible d'après ce qu'il dit. Hein. Dernière nouvelle, ça l'intéresse plus trop de se farcir les weekly et de suivre le rythme. Il voudra un programme allégé. Et je pense que, s'il est logique avec ce qu'il dit, a priori, son prochain contrat, il va avoir un contrat, une espèce de contrat de part-timer, quoi. Toi,
ouais,
il apparaîtra pour les gros shows, mais du coup, ouais, moi, je trouve que ça sent vraiment le petit programme de sortie. Toi, on temporise parce qu'on ne sait pas ce que vont donner les négociations du contrat, on ne sait toujours pas. Il n'a toujours pas dit oui, toujours pas dit non. Mais on n'est vraiment pas sûr qu'il dise oui, et du coup, on lui donne un petit programme sans grand danger qui est divertissant, toi.
Ouais, mais c'est marrant, ça. Et Daniel Bryan, quand même, il fait partie quand même des gars, des gros noms de la fédé, qui, pour traditionnellement, a toujours quand même un bon ou un gros programme à WrestleMania. C'est vrai que là, pas du tout, c'est même pas évoqué. Hein. Il y a même pas eu une évocation particulière vis-à-vis de Daniel Bryan sur WrestleMania. C'est assez surprenant. Moi, ça me laisse assez. Ça me pose question quand même. Et comme tu l'as dit, alors écoute, je ne savais pas sur l'histoire de la fin de contrat de Daniel Bryan. Donc, du coup, maintenant que tu le dis, bah, ça éclaire un peu ma lanterne. C'est un peu triste, hein, je trouve. Hein. Il sort quand même d'une rivalité avec The Fiend. Il était en course pour le titre suprême. Ouais. C'est bizarre. Et après, j'imagine pas. Ou alors, ils sont en train de préparer un Daniel Bryan versus Drew Gulak pour WrestleMania.
Je sais pas. je sais pas, parce qu'en début de show, on est là à dire qu'on va faire venir Goldberg pour asseoir des gens sur des sièges. Daniel Bryan versus Drew Gulak, c'est un petit peu l'antithèse, quoi.
Ah ouais, là je suis d'accord. Hein. Ça me paraît quand même assez incroyable, quoi.
Mais je suis en train de chercher des infos sur son contrat. Là, je suis en train de lire 2021, donc ce serait pas trop du coup le deal.
Ouais.
Bon, voilà, à vérifier. N'hésitez pas dans le commentaire à balancer si vous avez des histoires, mais visiblement, ouais, il a signé un contrat de 3 ans, donc il resterait jusqu'en 2021. Donc, pourquoi ne pas utiliser Daniel Bryan à WrestleMania à ce moment-là? Je sais pas. Après, peut-être que l'histoire de. Après, indépendamment de l'histoire du contrat, peut-être, le mec peut tout à fait peut-être lever le pied, toi. Ou...
Oui, et puis peut-être qu'il lève le pied pour la bonne raison que tu as dit au début, hein, c'est-à-dire tout simplement, sa femme est enceinte.
C'est ça.
Peut-être que voilà, tout simplement, là, il a demandé un programme allégé parce qu'il veut se consacrer à la grossesse de sa femme. Et puis,
ouais, en disant, je vais peut-être pousser des petits jeunes, j'en sais rien, ce serait pas ouais, la première fois. Rappelez-vous avec Mustapha Ali, hein, son programme avec Mustapha Ali de quelques semaines, là, où il avait. On sait que c'est lui, backstage, qui avait poussé cet angle-là avec Mustapha Ali. Donc, peut-être qu'on est un peu dans cette même veine-là de Daniel Bryan qui veut avoir un programme. De ce style-là, toi, plus léger, avec des jeunes, et loin des gros programmes habituels, toi. Donc, Drew Gulak versus Daniel Bryan, avec Drew Gulak versus Daniel Bryan, qui... Drew Gulak qui bat Daniel Bryan en moins d'une minute. Il y avait aussi des rumeurs de... du coup, vu que Sheamus ne va pas faire grand-chose à sa chambre d'élimination, il y a aussi des rumeurs d'un... Sheamus versus Daniel Bryan pour WrestleMania, il y a toujours cette rumeur là de cette espèce de match revenge, toi.
Ah oui, d'accord, ouais.
De la grande époque qui avait lancé le Yes Movement, on va dire, en tout cas.
Ouais.
Mais bon, on n'y est pas encore. De toute façon, c'est
la n'importe la vengeance, la fameuse vengeance des 18 secondes.
Ouais. On revient un petit peu à la division tag team. Il y a eu un match entre Miz Morrison et les Usos ce soir. Les nouveaux champions Miz et Morrison arrivent avec leur nouvelle ceinture, hein, du coup. Et donc ils annoncent que voilà, ce raid va être incroyable. Il n'y a pas de chance, you deserve it. Donc voilà, ils se gargarisent, voilà, ils sont très contents de leur titre, et ils vont défendre. Et c'est là où on a pris en fait la chambre d'élimination, hein, pour la division tag team, et les Ouzo débarquent. Et du coup, les Ouzo vont remporter leur match, un match de 10 minutes, avec l'avalanche Destroyer là, et le splash du puits, le turnbuckle pour la victoire. Voilà, des champions qui perdent dès le lendemain.
Bah ouais, non.
WWE style.
Voilà, alors là, on est en plein WWE style, quoi. C'est-à-dire, les mecs, la veille, sont champions, quoi, et ils perdent dès le lendemain, quoi. C'est quand même quelque chose, hein. Et puis, on peut parler un peu vite fait du line-up de l'Elimination Chamber pour la Tag Team Division, ouais. Parce que t'as quand même le retour de la Lucha House Party, par exemple, quoi. C'est... Tout d'un coup, paf, ils ressortent. Voilà. Donc, on aura Miz Morrison, les Ouzo, la Lucha House Party, le New Day et les Heavy Machinery. Quoi. Mais moi, je le dis, hein, je l'ai dit au début. Hein, moi, pour le coup, ça m'intéresse. Pour le coup, voilà, moi, je suis en mode ça relance. Voilà, on relance un peu le catch par équipe à SmackDown, donc ça, c'est pas mal. Non, voilà, moi, ce qui m'a posé problème, c'est voilà, pourquoi faire perdre Morrison et le Miz face aux Ouzo, quoi. Ça aurait absolument pas décrédibilisé les Ouzo de perdre ce match face aux champions en titre. Voilà, on a un peu l'impression, je sais pas si ça te donne cette sensation, mais on a un peu l'impression qu'ils nous vendent tous les trucs comme si Super Showdown n'avait pas existé finalement le lendemain, quoi.
Pourtant, on s'en souvient encore de Super Showdown. En plus, ça a été booké n'importe comment. Faites revenir un GM parce que cette chambre d'élimination a été annoncée quand même, c'est-à-dire qu'un arbitre est apparu. Il y avait donc les Ouzo et... C'est ça, je sais plus qui était là, je suis paumé. Mais t'avais, l'arbitre apparaît et demande à l'annonceur de faire l'annonce pour la chambre d'élimination, et avec donc le fameux Greg Hamilton, hein, qui annonce donc tous les participants. Donc il fait la liste, et genre t'as Lucha House Party, t'as Ziggler et Rude, et effectivement, il n'y a pas des grosses... Enfin, c'est pas une énorme annonce, toi. Enfin, là, en soi, c'est cool, mais genre, ça a amené vraiment n'importe comment. C'est vraiment amené de la façon la plus feignasse possible. Enfin, c'est trois. On a eu quand même trois gros matchs, que ce soit pour WrestleMania ou la chambre d'élimination, qui ont été vraiment annoncés n'importe comment ce soir, quoi.
Ouais, booké en 2-2, quoi, comme avec Goldberg. Et...
Ouais.
Quoi, c'est, voilà, on book ça à 10 000 à l'heure. Sans explication plus que ça, parce que je crois tout simplement qu'ils considèrent qu'il n'y a pas à expliquer et il n'y a pas à faire quoi que ce soit là-dessus, quoi.
Non, il n'y a que la carte qui compte.
Ouais, il n'y a que la carte qui compte, c'est exactement ça. Après, bon, bah voilà, ce qui est cool, c'est que le titre sera défendu dans la chambre d'élimination et que ça, globalement, ça devrait nous donner un match assez sympa et assez rythmé.
Ouais, drôle de façon d'annoncer, de booker, mais comme tu l'as dit, c'est un peu le thème de ce soir. D'ailleurs, bah, on arrive à notre vrai main event. Hein. Voilà, vous l'avez reconnu, ce chant, évidemment, célèbre à travers le monde. C'est comme si c'est la sonnerie de Giscal, hein, son réveil.
Et ouais, c'est le réveil à Giscal, ça, ouais, c'est clair.
On est à Boston, John Cena est là, grosse pop, hein, pour le local.
Stratosphérique.
Il est en feu, il a sorti son vieux t-shirt vert fluo, c'est la folie, et on a droit à une petite plongée dans les pensées de John Cena, hein, il le dit lui-même, voilà, c'est la saison de WrestleMania, et comme presque chaque année dorénavant, c'est un peu triste d'ailleurs, hein, cet état des lieux qui nous fait là. Qu'est-ce que va faire John Cena à WrestleMania? Tout le monde se pose la question. Tout le monde veut y être à WrestleMania. John Cena veut y être, Chris veut y être, moi je veux y être, tout le monde veut y être.
Voilà.
Et il nous dit d'ailleurs que peu importe, voilà, on le voit plus, mais il sera toujours une superstar de la WWE. Du coup, voilà, il veut faire quelque chose, il fait des choses différentes, il écoute les fans, il veut aider les petits jeunes, il entend le public, ils sont toujours aussi passionnés à propos du futur de la WWE. Donc là, on plante déjà des petites graines, on se dit, bon, bah, on nous parle du futur, qu'on nous parle de petits jeunes, Cena est en train de nous parler de petits jeunes. Cena peut faire un petit peu ce qu'il veut pour WrestleMania. Il a gagné ce droit-là. Mais voilà, justement, il veut laisser la place. C'est un peu ce qu'il sous-entend. Il veut laisser la place à ceux qui ont mérité leur ticket pour WrestleMania. Et du coup, bah, pas de John Cena à WrestleMania cette année. C'est pas un au revoir, mais il fait la bonne chose. Parce qu'un spot à WrestleMania, ça se mérite. Ça se demande pas. Alors, l'effet miroir avec l'opener est assez cruel. et du coup, bah, il repart, il fait la bise à ses potes, à sa famille, il fait un dernier petit coucou et il arrive sous petit entron. Et là, on se dit, il va se passer quelque chose quand même. Et il se passe quelque chose puisque la lumière s'éteint, le film apparaît, le film pointe du doigt le signe, l'enseigne WrestleMania. C'est un petit peu bizarre tout ça quand même. Cena regarde The Fiend, il baisse sa casquette, challenge accepté, The Fiend versus John Cena est booké pour WrestleMania. Et voilà comment on nous book un autre gros match pour Tampa Bay. Quel épisode étrange, quoi. Quel épisode étrange. Parce qu'on se doutait de cette affiche. C'était une des affiches probables pour Tampa Bay. Où un jour ou l'autre, on allait la voir, ce John Cena versus The Fiend. Mais tout ça est quand même bien étrange.
Ouais, je sais pas. Les bookers avaient décidé que ça devait être le SmackDown le plus rapidement booké de l'histoire. Voilà. Alors après, maximum respect à John, hein, parce que John, il a fait péter les compteurs de l'audimat depuis que SmackDown était passé sur la Fox. Jamais, je crois, à part le deuxième épisode, je crois que jamais SmackDown avait défoncé autant les compteurs en termes de médiamétrie. C'est incroyable, quoi. Le retour du Marine a un effet bœuf, hein. On peut pas dire le contraire, hein.
Ouais. Preuve qu'il n'y a pas que besoin de faire venir les papis pour rebooster. Tu fais venir John Cena pour rebooster les ratings et c'est déjà un peu plus intelligent.
Ah bah ouais, je pense que là c'était plutôt bien joué sur ce coup-là. Là on peut pas leur reprocher ça, hein. Clairement, la présence du Marine a boosté l'émission puissamment. Voilà, et puis bah, le film qui réapparaît comme si strictement rien ne s'était passé la veille et s'auto-book un match face au Johnny Boy. Voilà,
ouais, qui pointe du doigt les signes WrestleMania. C'était quand même une drôle d'image, hein.
Après tu parlais tout à l'heure de l'historique du film qui justement s'attaquait un peu à tous les gars avec qui il avait eu des ennuis au fur et à mesure des années. Bah, pour le coup, Bray Wyatt et John Cena, ils ont un historique ensemble. Donc, ça va peut-être permettre à Bray Wyatt de nous offrir quelques Firefly Funhouse de qualité d'ici à WrestleMania.
Ouais, non, c'est carrément logique. C'est John Cena, dans le fantasme des suiveurs, est celui qui a fait dérailler la locomotive Bray Wyatt, et du coup effectivement ils ont un énorme passif ces deux-là, et évidemment que c'est complètement logique qu'ils se retrouvent l'un face de l'autre. C'est juste un peu bizarre que The Fiend n'attaque pas John Cena comme il a fait à chaque fois pour se booker les matchs, c'est qu'il attaquait les mecs. Là, le mec arrive, il pointe comme n'importe quel catcheur lambda, il arrive et il pointe le panneau WrestleMania. L'image était vraiment assez loufoque, en fait. On voyait Bray Wyatt à travers The Fiend, j'ai trouvé. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends, ouais.
Donc, c'était assez bizarre, mais de toute façon, clairement, il s'est pris un coup à la tête, hein, The Fiend, avec le jackhammer, là, ça l'a un petit peu transformé.
Ouais, il était parmi. Bon, même si c'était un jackhammer en carton, mais... c'était peut-être qu'effectivement, il était parmi, quoi. Mais moi, je suis vraiment... Moi, je reconnais totalement Big Up à Giscal, parce que franchement, je reconnais complètement la puissance de John Cena en promo et comment ce mec est capable, voilà, en l'espace de quelques minutes, de tout retourner à lui tout seul. Vraiment, vraiment là-dessus, hein, c'est vraiment, vraiment un super pro, ce mec, quoi.
Imagine quand même la différence Enfin, imagine la même séquence, mais avec la ceinture, toi.
Ah ouais. Ah ouais.
Ça aurait été quand même... En fait c'est un peu étrange. Je suis dans deux positions. Je me dis, quitte à lui avoir donné la ceinture, et ben dans ce cas-là, imagine la même scène, mais avec la ceinture, The Finn, la ceinture, qui a la ceinture, John Cena, cette histoire de 17e titre, hein, c'est ça, hein,
qui
chasse. Ouais. Même s'il n'y en a pas besoin dans leur rivalité, toi, de ça. Mais bon, ça aurait apporté quelque chose en plus, à la limite, toi. Imagine, ça aurait été bien. Mais finalement, toi, on se rend, il y en a pas besoin de cette ceinture, mais on lui avait quand même donné à The Finn. Donc, toi, finalement, on lui a retiré. Donc, ça va fonctionner. Ce match, enfin, il fonctionne parce que c'est presque le endgame pour The Finn de s'attaquer à John Cena. John Cena, il a détruit la Nexus à lui tout seul. On se souvient que Bray Wyatt, Husky Harris était dans la Nexus. John Cena a vaincu Bray Wyatt à WrestleMania. Il a gagné sa rivalité contre Bray Wyatt. Donc, il y a un énorme passif entre les deux. Donc, c'est une très belle affiche pour Bray Wyatt et The Finn qui est très logique et qui va, je pense, qui permet un peu de clôturer le chapitre de la vengeance de The Finn, toi, l'esprit de vengeance qui anime The Finn, parce qu'une fois qu'il s'est vengé de Bray Wyatt, de John Cena, grosso modo, cette storyline-là, elle est terminée, toi, il faut trouver autre chose. En battant Daniel Bryan et John Cena, c'était un petit peu les deux, antagonistes principaux de Bray Wyatt. Donc après, tu pouvais partir sur autre chose, et là, tu partais sur la conquête du titre, à la limite. Une fois que tu avais vaincu tous les anciens...
T'en oublies un, moi, à mon avis. C'est qu'il y avait un autre gars avec qui le film il pourrait avoir un énorme passif au vu d'une rivalité quand même énorme. C'était la rivalité du temps de la Wyatt Family versus le Shield. Et le film aurait pu aussi s'attaquer à Roman Reigns, par exemple. Tu vois.
Ouais, mais ils l'ont gagné, cette rivalité.
Mais ils l'ont gagné. Effectivement, ils ont gagné cette rivalité. Donc, il n'y avait peut-être pas besoin de
Ils n'ont pas forcément été... Daniel Bryan a trahi la Wyatt Family et John Cena a empêché Bray Wyatt d'accomplir... Bon, après, regarde, cette Rollin, c'est vrai, il a affronté... Enfin, c'est un peu bancal, hein, si tu creuses. Par rapport à Finn Balor, par rapport... Voilà, c'est pas... Il se venge un peu de tous ceux qu'il a croisés. Donc, ouais, effectivement, tu pouvais aussi faire rentrer. Mais justement, tu faisais rentrer... En fait, c'était assez simple. Tu redonnais le titre à Roman Reigns. Tu avais The Fiend. Et après, une fois que tu avais Roman Reigns versus The Fiend, avec Roman Reigns qui avait le titre versus The Fiend pour SummerSlam, par exemple, toi. Et là seulement, tu donnais le titre à The Fiend. Toi, tu faisais un beau reign de Roman Reigns jusqu'à SummerSlam, par exemple. Et puis, t'inversais le truc, en fait. Tu l'inversais complètement. Mais bon. Donc voilà, on a notre match. Johnny Boy sera bien à WrestleMania. Voilà qui devrait poser des culs dans des chaises. Ce qui ferait plaisir à...
Ah voilà, je crois que pour le coup, ouais, là, ils ont enfin trouvé pour finir de remplir le stade de Tampa Bay. Là.
C'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon bon Chris.
Ouais.
Partager ton flop, ton top. Et ta note, s'il te plaît.
Alors, flopons nos tontopons. Bon, écoute, mon top, hein, t'as... y a pas de problème, il va à John Cena. Hein. Ouais. Y a même pas photo, quoi. Ça a été le moment de ce weekly. Voilà, le mec fait péter tous les compteurs, nous sort une promo de fou, une pop stratosphérique, une rivalité qui se met en place avec le Fiend. Voilà quoi, je veux dire, le mec a sorti toute la panoplie du pro ultime et parfait. Voilà, donc moi, pour moi, il n'y a même pas, il y a même pas photo quoi. Là c'est il éclate tout, le Johnny Boy. Donc pour moi, mon top va à lui. Mon flop, écoute, c'est un peu compliqué parce que ça a été assez moyennasse avec. Alors, j'ai envie de donner un espèce de flop général. En fait, je vais donner ce flop, finalement, à cette espèce de booking express auquel on aura eu droit pendant tout le show. Et voilà, tous ces trucs faits en 2-2, là, à la vitesse de la lumière, comme si on voulait évacuer ça très, très vite. Faire oublier Super Showdown, ce qui sera compliqué quand même. Et donc voilà, donc ça m'a pas plu. C'était, voilà, j'ai trouvé ça étrange. Et puis ma note, je vais lui donner la moyenne. Je vais lui donner un. On n'a pas eu énorme. Enfin, on a eu du catch, mais ça a été que des matchs très rapides. Voilà, je vais lui mettre, allez, poussif 2,5.
Ouais.
Voilà.
Moi, mon flop, c'est comme tout, en fait. C'est la visible absence, visiblement, de Elimination Chamber pour les hommes, quoi. On va pas avoir de Elimination Chamber masculin et on a renié ce qu'on avait commencé à faire la semaine d'avant avec Chimeuse.
Ouais, ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le truc marquant de cet épisode, c'est quand même.
Ce Roman Reigns qui arrive et qui dit je suis le suivant, genre, t'as l'impression qu'il était dans la Gorilla Position et que. Il vient en disant. Enfin, tu entends trop Vince McMahon, quoi, à travers cette. C'est pas Roman Reigns qu'on a vu, c'est Vince McMahon qu'on a vu et qui est arrivé, qui a dit Roman Reigns, c'est le suivant. Et j'aurais aimé, parce que enfin, moi j'ai peur, hein. Reigns versus Goldberg, je me dis, mais ils sont absolument en train de redétruire Roman Reigns en faisant ça. Ils réutilisent les mêmes ficelles qu'ils ont faites, qui ont conduit au désamour d'une partie du public pour Roman Reigns, à savoir qu'on lui donnait tout à chaque fois, trop facilement, que le mec était garanti d'avoir ses matchs à WrestleMania, même s'il perdait beaucoup malgré tout, mais le mec, on donnait opportunité sur opportunité, et là, on arrive à la chambre d'élimination, le mec, Roman Reigns, il peut nous faire une grosse prestation, on sait que les gens, ils aiment Roman Reigns, quand il fait des grosses prestations, des gros matchs, on se souvient de ses rivalités contre Braun Strowman, notamment.
Ou Daniel Bryan.
Exactement. Tu lui fais une grosse prestation à l'Elimination Chamber. Tu lui racontes vraiment une belle histoire pour que les gens soient face au taquet derrière lui, tu vois. Ouais, lui qui a réussi à regagner l'amour du public.
Ouais, et puis Roman, il vient de quand même passer. Que quand même honneurs lui soit rendu, il vient de passer un an en mid-card.
Mais oui.
Avec entre autres bon la longue feud là face à Baron Corbin. Je veux dire pour moi je considère que c'est tout à son honneur. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que il n'arrêtait pas de se faire défoncer du temps où il était main eventer. Et puis bah pendant qu'il est mid-carder, tout le monde dit comment ça se fait que Roman Reigns il est pas plus haut et tout. Et puis bah là bim. On le balance direct dans la title picture face à Goldberg. Donc oui, je te rejoins complètement sur l'idée de Vince McMahon avec le casque sur les oreilles à SmackDown cette semaine et qui a dit « Roman, c'est à toi
!» Ah, c'est vraiment dommage. Enfin, ils ont pris un gros risque une fois de plus. J'ai vraiment peur que ça se retourne une fois de plus contre lui.
Ah ouais, moi aussi, je suis assez inquiet.
Parce que là, c'est typique de ce qui a porté préjudice à Roman Reigns. C'est vraiment le même exercice, là.
Et puis, moi, j'ai un peu peur quand même que ça soit un match qui se fasse mais pourrir par la foule.
Pourrir ce match. Il va se faire pourrir, moi, je te le dis tout de suite. Hein. Il va avoir beaucoup de boulot, là, en quelques semaines, pour amener à... Ils vont trouver un angle, hein, de toute façon. Goldberg, le mec qui se croit plus fort que tout le monde, je sais pas quoi, puis Roman Reigns qui... Enfin, toi qui va, mais j'en sais rien, même s'ils vont pas mordre, je sais pas. Ouais, j'ai très peur.
Il va falloir que Goldberg se transforme en heel ultime, hein, parce que
très arrogant, toi.
Ah ouais. Là, il faut vraiment qu'il travaille le personnage de Goldberg de manière très très forte, hein, parce que là, dans des conditions comme ça, au sortir de ce SmackDown là, pour l'instant, le compte y est pas.
Ah non, il faut que les gens détestent Goldberg avant WrestleMania.
Mais ouais.
Ouais, bon, pour l'instant, c'est ils ont 4 semaines, ils peuvent y arriver, hein, mais.
Espérons-le.
Les mecs, ils s'aident pas. Et mon top, je pense que le plaisir de revoir John Cena est partagé. Donc, je le donne aussi à Johnny John. Ma note, je suis comme toi. Moi, je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre un 2, en fait. Je vais mettre un 2 parce que c'est quand même trop expéditif et trop. On nous prend pour des cons, là, quand même. Ils ont des mois pour nous booker. C'est quoi cette route pour WrestleMania? Le concept même n'existe plus, en fait. Donc arrêtez de nous prendre la tête avec ça. Il n'y a plus de route pour WrestleMania. Il y a juste un aller-retour en jet privé pour l'Arabie Saoudite, quoi. Il ne reste plus que ça.
Ouais. La WWE s'est bien foutu de notre gueule cette semaine quand même. Hein.
Ah ouais, ouais, on annule des Elimination Chamber qui sont la dernière embûche, quoi. Le petit frisson normalement, l'Elimination Chamber, c'est genre, toi, il peut se passer encore des trucs, il peut avoir toi des petites secousses, des turbulences sur la route pour WrestleMania. Et regarde ça, ils annulent tout, il n'y a plus de chambre. Toutes les grosses affiches sont déjà validées.
Mais ouais.
C'est d'une tristesse, quoi, absolue. Ouais. Comme je te disais en antenne avant, moi, ça m'a rendu triste cet épisode. Je suis un peu triste en ce moment avec la WWE.
Ouais, bah moi, c'est ce que je t'ai dit aussi en antenne. Au sortir du visionnage de Super Showdown, pour la première fois depuis des années, je me suis dit, mais putain, mais est-ce que ça vaut encore le coup de regarder la WWE dans des conditions pareilles, quoi. J'ai vraiment eu la sensation qu'on se foutait de ma gueule, quoi, devant Super Showdown. Quoi. Vraiment, je pense que même les suiveurs les plus enthousiastes et tout ça, quand même, quoi, avec un petit peu de recul et un petit peu de réflexion, tu te dis quand même que Super Showdown, c'est une escroquerie, quoi.
Comment tu... T'as plus rien... À quoi tu veux t'accrocher, en fait? On donne rien aux gens à quoi vraiment s'accrocher, puisqu'on défait tout, à chaque fois.
Oui, je comprends, c'est du détricotage permanent.
C'est ça. C'est on te donne, on te reprend, on te donne, on te reprend. Ça marche pas comme ça. Au bout d'un moment, t'en as marre, quoi. T'es pas là en mode ah bah oui, attends. Ah, moi je vais. Ils me l'ont repris. Du coup, je vais vivre passionnément ma frustration, toi. On te demande de vivre passionnément ta frustration. Et sois frustré, aie faim, et tu seras récompensé à la fin. Mais non.
Ouais, et puis ça fait souffrir notre suspension d'incrédulité, hein, parce que bon, je suis désolé, hein, mais moi j'ai beaucoup de mal avec Goldberg, tout ça, quoi. Moi, pour moi, c'est très très difficile. Hein. Ça passe pas, quoi. Franchement, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre. Hein. Là, vraiment, je l'ai perdu. Ouais, totalement perdu le tonton Chris cette semaine avec la WWE.
Je pense que j'avais mis mon top match à The Fiend versus Seth Rollins. J'ai envie de réécrire l'histoire et de le retirer, quoi, parce que. Quelle valeur a ce match aujourd'hui, quoi? Quelle valeur a ce match-là qui m'avait complètement... Je me suis dit, mais on est entré dans une autre dimension. Toi, c'était un moment charnière, quoi. On avait vraiment osé faire quelque chose d'assez incroyable. 4 mois plus tard, voilà.
Voilà, 4 mois plus tard, t'imagines?
4 mois plus tard, tout ça est acheté à la poubelle.
Voilà.
C'est très dur. Bon, allez. C'est pas ça qui va nous empêcher hein, de continuer à regarder et analyser les shows de la WWE. On va peut-être moins se battre pour passer à l'antenne.
Pour Super Showdown, ça s'est pas battu dans le studio pour faire la review du show de l'Arabie Saoudite. On peut pas dire qu'il y a eu un gros brawl de la chroniqueur de catch-up. Hein.
Ah, c'est vrai, en plus du côté de SmackDown, c'est compliqué. Hein. Autant à Raw, il se débrouille. Voilà, on a Drew McIntyre qui est là, qui est notre lumière, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon, allez, n'oubliez pas, en tout cas, si vous voulez nous suivre, c'est très simple. Il suffit de vous abonner soit en audio au podcast Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, Podcloud, j'en passe, et des meilleurs. YouTube également. Abonnez-vous, hein. Mettez la cloche pour ne rien manquer. N'hésitez pas à commenter également, de dire ce que vous avez pensé de tout ça, le top, le flop, votre note. C'est une sorte de chambre d'élimination qui est annulée, là, visiblement. Enfin, comment vous l'avez vécu? Moi, je le vis très mal, ça aussi. Enfin, là, ils me font du mal, la WWE. Et puis, n'hésitez pas également à parler de catch-up autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je te remercie, Chris, hein, de venir te fouetter le dos avec moi en direct.
Ah ouais, cette séance d'autoflagellation. C'est moi qui te remercie, mon IRM.
On le fait en se serrant la main et en se fouettant comme ça.
Ouais, c'est tout à fait ça. Mais c'est tout à fait à l'image de Squeakly. Tout à fait à l'image.
On se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous, on l'espère, une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut le patron. Salut peuple de catch. Bon, je suis désolé pour ma voix d'Australopithèque, hein. Mais ça y est, le coronavirus a frappé à ma porte.